pourrait faire des bruits d'animaux aussi dans le générique.
Miaou.
Mmh. Un chien, un cochon.
Il fait les oiseaux, tu fais bien.
Du verre dans les oreilles.
Je pense qu'on aura un super générique.
Donc du coup, on s'est dit que ce serait mieux en allant dans les fermes.
Allez. Allez. Tu vois, je sais pas si tu entends les petits oiseaux, mais...
C'est surtout la rocade.
Ouais, bah ouais, c'est... C'est aussi le, la ferme dans la ville. Hein. Allez, hop hop, on avance. Allez.
Nous voici donc chez Michel Priour, 42 ans, et éleveur laitier en périphérie de la ville de Rennes. Son exploitation se situe dans la ceinture verte, cette bande de champs d'une dizaine de kilomètres que la métropole de 400 000 habitants tente de conserver entre la ville même et les agglomérations avoisinantes.
Michel y gère une exploitation laitière traditionnelle, héritée de son père, et composée d'une cinquantaine d'hectares et d'un troupeau d'une quarantaine de vaches.
Un peu rustre au premier abord, derrière sa barbe et son franc-parler paysan, Michel nous a rapidement séduits avec ses mots justes, son humour là où on ne l'attend pas toujours, mais aussi ses réflexions déroutantes. Car Michel est un de ces paysans qui prend le temps de penser, de parler et qui, en plus, le revendique.
Mes vaches, c'est pas de la race qu'on a beaucoup par ici, hein, c'est de la race, parce qu'ici, il faut savoir, c'est plutôt de la Hochtaine, la prime Hochtaine, hein, donc la race qui est beaucoup prévue pour faire que du lait. Moi, c'est plutôt de la Normande. La Normande, c'est une race mixte, hein, qui donne du lait et de la viande. C'est une race qui est... Pour moi, c'est une robe, c'est une belle robe. Hein. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de blanc, bringé. Ça a des belles petites couleurs. C'est une race où la, beaucoup plus docile, beaucoup plus têtue. Mais ça, c'est. Mais je pense que bah oui, c'est têtue. Mais bon, je crois que le problème des vaches, c'est pas bête, mais c'est bête. C'est à la fois, c'est quand on dit qu'une vache est bête ou quelqu'un est bête, c'est parce que ça va dans un endroit où toi t'as pas envie que ça aille. Donc un troupeau de vaches, c'est bête, c'est parce que moi je voudrais qu'elle soit calme dans en train de pâturer. Là aujourd'hui, je voudrais qu'elle pâture. Et s'il y a quelqu'un qui passe à côté, elles vont tout de suite arrêter de pâturer alors que je voudrais qu'elle pâture. Et elles vont aller. C'est un inconvénient. Mais peut-être parce qu'elle est intelligente. C'est ça aussi.
La vache, animal symbolique de l'agriculture française, est souvent représentée en train de brouter l'herbe dans les champs, laissant imaginer une vie paisible, presque idyllique, saine et à l'air libre. La réalité est en fait bien plus sombre. En effet, la majorité des bovins sont beaucoup plus rarement dans les prairies qu'on nous le laisse imaginer. Ils sont nourris principalement au maïs et au soja, ce dernier étant souvent importé d'Amérique, où l'utilisation des OGM va croissante. Ces systèmes ont donc un fonctionnement uniquement basé sur la quantité de lait et le rendement.
Michel, lui, a opté pour un système herbager, qui colle beaucoup plus avec l'image que l'on a des vaches pâturant l'herbe verte des champs. Certes, il produit moins de lait, mais il a aussi moins de coûts. Sur le chemin de la traite, il en a profité pour nous expliquer comment fonctionne un tel système. Mais commençons par le commencement. C'est quoi déjà l'herbe ?
Quand on parle de l'herbe, c'est quelque chose qui est vert. Hein. Mais en fin de compte, c'est plus technique, parce qu'on voit... quand je prends une poignée, ça, quand c'est long, ça s'appelle une graminée. Et la graminée, il lui faut de l'azote pour qu'elle puisse pousser. Alors soit qu'on amène de l'azote, dite ammonitrate, hein, de l'azote de synthèse, hein, ou sinon, on sème dans ce mélange du trèfle. Trèfle, où tout le monde connaît, c'est avec trois feuilles au maximum, des fois c'est quatre, et il paraît que ça porte bonheur.
Donc toi, tu sèmes du trèfle.
Et je sème du trèfle, voilà. Et le trèfle, il a une particularité, c'est qu'il aurait fallu venir avec une bêche, mais sur ses racines, il y a des petites nodosités. Et les nodosités, elles absorbent l'azote de l'air, parce que dans l'air, il y a de l'azote, hein, qui la redistribue pour la redistribuer à la plante d'à côté, à la graminée d'à côté. Si bien que l'épandeur à ammonitrate, il est dans le champ, directement dans le champ, par le trèfle qu'il donne à la graminée à côté. C'est voilà. Et ça, c'est... Après, il faut qu'il y ait un mélange qui soit assez homogène. Et pour que le cycle se passe bien, il faut minimum les 30% de trèfle. Quand on prend une poignée, il faut 30% de trèfle et 70% de graminée. Là, c'est 30%, 25-30%, c'est très bien. Alors, par contre, des rumex.
Là, il faut que l'herbe pousse combien de temps, une fois qu'elle a été pâturée, pour que les vaches reviennent dans ton champ ?
Alors, c'est pareil, c'est tout dépend de la pousse d'air, mais là, on est à des périodes où je vais revenir tous 30 jours. Hein. Et puis, l'herbe multiplie par deux toutes les semaines de pousse. C'est-à-dire que si, admettons, elle a pris 200 kg de matière sèche à la première semaine, la deuxième semaine, elle va prendre 400 kg. La troisième semaine, elle va prendre 800. Hein. Et donc, et ça va jusqu'à la sixième semaine. Donc, ça veut dire qu'il faut aller... Si on veut avoir le maximum de stock, de quantité d'herbe, il faut aller jusqu'à 35 jours, 35-40 jours. Après, l'herbe ne va plus pousser et on va diminuer un peu la valeur. Donc c'est tout un compromis. Hein. C'est tout un compromis. Bon, après, rien de tel qu'une herbe jeune. Hein. Ça, c'est clair. Quoi. Là, on marche et il y a toujours de l'herbe. Hein. C'est toujours... Ici, sur les 26 hectares, il y a 26 hectares en herbe. Voilà, il n'y a que de l'herbe. Allez là. On avance.
Tu prends toujours du plaisir à venir faire.
Alors dire toujours du plaisir.
En général maintenant.
En général, ouais, quand même, mais c'est vrai, c'est quand même contraignant. Hein. Mais faut regarder que tu as d'autres côtés qui sont intéressants quand même. On bosse chez soi, on reçoit qui on veut. On n'est pas stressé. Enfin, on va moins se stresser. Moi, c'est vrai, c'est que derrière, il y a du travail à faire. Il y a toujours du travail. Et après, c'est tout dépend aussi comment elle est la structure d'exploitation. Si le mec il a investi dur parce qu'il fallait une grosse stabulation, il fallait une grosse salle de traite, enfin, il faut qu'il bosse, quoi. Et parce qu'il y a le banquier qui est derrière, qui tous les mois, il faut qu'il prélève, quoi, hein, le banquier. Et donc, c'est le cercle vicieux, il en faut toujours plus. Puis on est donné dans le guidon et là, je pense que ça devient... C'est assez grave, quoi. Merde, j'ai pas branché celle-là. Beaucoup se disent durables parce que ça fait bien, hein. Mais en fin de compte, ils sont pas autonomes. Derrière, ils peuvent pas être autonomes. Autonome, c'est vis-à-vis des banques. C'est que, bon, on a besoin d'elles, mais quand tu as des taux d'emprunt à 80-90%, c'est pas toi qui prends les décisions, quoi, hein. Il faut être quand même... remettre chez soi, quoi. Quand tu peux te décider de changer, de faire quelque chose, c'est toi qui dois décider sans demander au contrôleur laitier, au comptable. Allez, j'ai fait avancer. Allez. Et puis, quand t'as le nez dans le guidon à faire du travail, dans le boulot, t'as pas le temps de réfléchir. Si tu réfléchis, allez, c'est du temps que tu prends. Au lieu de faire du blé ou des traitements ou que sais-je, quoi. Hein. Donc, c'est prendre le temps de s'asseoir et regarder tes chiffres, c'est pas du temps perdu, c'est du travail. On avance, on avance. Alors, la Sarkozy mania, elle existe aussi chez les vaches, enfin, dans l'agriculture, c'est que t'es noir avec des sans-papiers, t'as tout de suite la maréchaussée qui arrive. Alors nous, une vache, un pivot qui n'a pas ses bagues à la naissance, c'est pire. Faut même pas imaginer. Voilà, on va repasser dans une parcelle d'à côté. Alors on fait attention, théoriquement il n'y a pas de courant, mais... Voilà. Donc moi je marche en paddock. Je te dis, parcelle d'un peine un hectare. Et j'émets 3 jours par paddock là. Alors il faut accepter qu'en fin de journée, en troisième journée, il y a moins d'herbe, donc elles gueulent plus. Et elles se disent en plus que si elles voient quelqu'un, si elles me voient, ils vont se dire, ah il va me changer de parcelle. Mais il faut être dur avec ces vaches, il faut leur dire. Non, tu restes dans ta parcelle et tu ne termines bien ton herbe. Donc là, c'est des vaches qui sont sorties il y a 3 semaines, donc 3 semaines, 1 mois. Donc pareil, il sera peut-être temps de repasser rapidement.
Donc tu regardes quoi là en fait?
Je regarde la quantité d'herbe. C'est toujours par rapport à mes bottes. Moi, les puritains, ils ont un herbomètre hein, pour voir ou avec le contrôleur laitier, hein, pour voir la hauteur de l'herbe. Mais moi, c'est faut marcher dedans. Hein. C'est pas s'arrêter sur le bord de la route à regarder, tiens, l'herbe est haute, parce que ça peut paraître, hein, toujours. Et le travail important dans les bons systèmes herbagers, c'est que même si on fait moins de tracteurs, hein, parce que... C'est les vaches qui vont chercher leur nourriture et donc mais il faut que l'éleveur il prenne son temps, il faut qu'il passe. Moi je passe minimum 2 à 3 heures par semaine à visiter, surtout à cette période-là, à marcher dans les pâtures. Hein. Il faut y aller quoi, parce que la gestion de l'herbe, c'est beaucoup plus difficile que la gestion du maïs. Hein. Le maïs, hormis les contraintes au niveau du semis, de la récolte, après c'est. Ça roule tout seul. Hein. L'herbe, c'est. Ben, il faut, si on veut faire du lait au printemps, il faut faire pâturer au bon stade. Si c'est trop élevé, on va limiter un peu la production. L'herbe ne pousse pas tout le temps, quoi, hein, ça serait trop beau. Au printemps, on a trop d'herbe, presque, parce que alors donc faut faire les stocks. Et puis l'été, ben, ça ne pousse plus. Faut faire aussi les stocks pour l'hiver. Donc c'est quoi? C'est l'enrubanage, c'est l'ensilage d'herbe, c'est le foin. Donc c'est quand même des aliments, enfin des stocks qui font produire moins de lait, hein, faut être honnête. Mais bon, c'est la volonté de l'exploitation, c'est la volonté de nos systèmes. On a un quota à faire, on le fait, et puis on essaye d'avoir les coûts les moins élevés, quoi. Hein. Nous, dans nos systèmes, on est assez radins, parce qu'un argent qu'on ne dépense pas, c'est celui qu'on gagne.
Et économiquement, justement, ouais, le système herbager, c'est celui qui te paraît le plus intéressant, toi ?
Le plus important pour nous, c'est quand même si on produit du lait à l'herbe, hein, c'est le prix du litre de lait qui est important. Hein. On serait peut-être plus facilement... On est moins dépendant. L'avantage qu'on est moins dépendant, c'est que l'azote, elle peut monter, elle peut... Nous, on a moins de soucis là. Mais notre résultat, il est comme tout le monde, hein, c'est le litre de lait bien payé, on est content. Hein.
Et en quoi, de manière générale, un système herbager alors va être plus durable que quelqu'un qui va nourrir ses vaches avec du maïs plutôt qu'avec de l'herbe?
Alors, plus durable, c'est que le maïs, qui est une plante, une très bonne plante, hein, a un inconvénient, c'est une plante déséquilibrée. Donc, parce que pour produire du lait, il faut de l'énergie, il faut de la protéine. Et le maïs est très riche en énergie, donc la protéine, c'est le tourteau de soja qu'on importe du Brésil. Bon, après, il y a tous les inconvénients de la traçabilité du soja avec les OGM. Et l'avantage avec l'herbe, c'est que l'herbe, c'est un aliment assez équilibré. Hein, parce que, toujours pareil, l'herbe est riche en énergie, plus riche en énergie qu'en azote. Mais comme le trèfle est riche en azote, automatiquement, c'est un plat équilibré. Voilà.
Mais pourquoi les éleveurs n'ont pas fait plus... Pourquoi il y a encore des éleveurs qui font du maïs alors, si l'herbe est tout simplement quelque chose de bien pour l'alimentation?
Faut presque leur demander. Hein, le souci, c'est que l'herbe n'est pas aidée, tandis que le maïs est aidé.
Aujourd'hui encore, l'Europe reste le premier importateur mondial de protéines et continue d'encourager la production de céréales via la politique agricole commune.
Aujourd'hui encore, 90% de nos vaches sont nourries au maïs et au soja.
Mais aujourd'hui, de nombreux producteurs ont compris, comme Michel, que cette dérive hors sol les conduit à être dépendants du cours des matières premières, mais aussi de la politique de prime de Bruxelles.
Cependant, gérer des exploitations herbagères où la proximité des prairies les unes aux autres est fondamentale n'est pas toujours évident, surtout dans une agglomération comme celle de Rennes, où l'on prévoit jusqu'à 45 000 nouveaux habitants dans les années à venir.
On est quand même presque dans... Enfin, on est dans Rennes Métropole déjà, on est presque...
Oui,
pas en ville, mais presque. ça change des choses, toi, pour toi?
Oui, parce qu'il y a quand même... Il y a plein de routes, il y a des... Ici, il y a 26 hectares qui sont accessibles aux vaches. C'est le minimum. Mais il y a le souci, c'est que le TGV passe la ligne à grande vitesse, passe sur mes terres.
C'est... Va passer, non?
Ouais, va passer, ouais. Donc, donc là, il va y avoir un aménagement foncier. Je devrais toujours avoir mes 26 hectares. Sauf que le siège d'exploitation va se retrouver sur un bout. Donc là, ça va être plus contraignant. Bon, alors ça, c'est le TGV. Le souci, c'est qu'on nous annonce aussi une DVA, là, une déviation qui passe. Alors là, de l'autre côté de... D'un côté, tu as le TGV, de l'autre côté, c'est le TGV, là, dans la DVA.
Tu seras encerclé, en fait.
Ouais, Donc, il n'y aura plus que 2,5 hectares accessibles par les vaches. Donc là, c'est l'exploitation n'est plus viable. Ça, c'est clair. Mais bon, si on... faut être philosophe, hein, parce qu'autrement, on se prend vite la tête. Hein, alors, donc, on verra. Pour l'instant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore mes 26 hectares accessibles. Je vais comme ça, quoi. On a la chance dans les agriculteurs, mine de rien, c'est qu'ils savent s'adapter assez facilement, mine de rien. On gueule, mais on sait s'adapter. Et des fois, ça fait mal. Des fois, ça fait même très mal, mais on s'adapte. Et les gens qui ne veulent pas s'adapter n'avancent pas, de toute manière. C'est tout.
Mais là, dans ton cas, c'est pas dans l'intérêt aussi de Rennes Métropole de garder justement des paysans vraiment en bordure,
Je me méfie, moi, ces choses-là, parce que si c'est pour être... Les Indiens en Amérique, on les a parqués dans des zones... Alors, je ne tiens pas qu'on parque des agriculteurs dans des zones et puis qu'on nous lance des cacahuètes pour nous faire plaisir. Je ne suis pas sûr que ça soit... Je pense qu'on a à s'adapter aussi avec le... On ne peut pas le nier. Hein, de toute manière, ceux qui achètent nos produits, c'est quand même les gens. Donc les gens, ils sont sur une métropole, ils sont sur un endroit. On est juste à côté. Il faut qu'on s'adapte. Faut qu'on s'adapte aussi avec leur marché. Hein. Donc on est dans l'endroit, ben, on doit pouvoir vivre. Et puis, on a un avantage, c'est que dans ces cas-là, faut travailler les circuits courts. Donc, faut accepter que sur une métropole, on ait des beaucoup plus petites exploitations. Mais en contrepartie, on a nos produits qui sont payés correctement pour qu'on puisse vivre. Ça, je crois que c'est à eux, dans une métropole, dans ces cas-là, qui favorisent qu'il n'y a pas des agrandissements abusifs. Quand on s'aperçoit que tu as certains qui arrivent à 100 hectares, ils sont tout seuls. Pour moi, non. Pour moi, avec 100 hectares, on peut faire vivre deux exploitants.
Ouais, tu penses que Rennes Métropole doit jouer un rôle là-dedans?
Ouais, beaucoup plus, oui. Pour moi, c'est eux qui doivent siéger en CDOA quand il y a des commissions de structure. Il y a une petite exploitation de 15 hectares, là, qui savent qu'il va être libéré. et ben tout de suite, c'est à eux de dire, celle-là, on la prend, on a des jeunes qui veulent s'installer en maraîchage bio, et ben on lui la donne tout de suite.
Bon, je vais démarrer le tracteur, parce que l'autre, c'est l'ancêtre, il faut le chauffer un tout petit peu. Ça démarre.
Je pense que c'est des vaches qui aiment bien le contact des hommes. Hein, c'est, enfin bon, tous les animaux ont besoin des contacts des hommes, mais je pense que particulièrement la Normande a besoin de caresses. Et l'avantage, c'est une race qui est bien pour les systèmes herbagers. Pour moi, puis bon, c'est la meilleure. Hein. Je pense que c'est de la Normande, mais c'est aussi chauvin que les Bretagnes. Alors donc, et puis je pense que je crois que c'est. Est-ce que c'est peut-être pas le fait aussi de savoir qu'on est minoritaire, qu'on se plaît, parce qu'on est minoritaire dans nos systèmes herbagers, on est minoritaire dans cette race-là. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est peut-être ça aussi. Hein, que j'aime bien cette race-là. On voudrait que tout le monde soit pareil, quoi. Eh ben non, je me dis non, on peut vivre avec des choses différentes. Faut savoir s'adapter, quoi. On s'adapte. Je crois que c'est la philosophie dès le départ, c'est s'adapter avec des choses que tout le monde n'a pas. Moi je me dis, des gens qui ont décidé de vivre autrement de nous, s'ils s'en sortent, tant mieux. Ils ont besoin... je crois que c'est la biodiversité aussi, on parle de biodiversité, mais la biodiversité aussi, elle est chez les gens, elle est chez les systèmes. Et je crois que c'est bien. Il faut qu'il y ait une biodiversité. Hein, c'est bien.
Donc il faut des intensifs aussi?
S'il faut des intensifs, ils font. Hein. Après, chacun... Je pense que le but du jeu aussi, qu'ils se plaignent pas dans leur truc, quoi. Mais s'ils sont très intensifs et puis ils se plantent, qu'ils prennent pour eux, quoi. Hein. Ça, on revient aussi sur la PAC. Hein. C'est pas normal que les intensifs, qui ont plus d'aide, se plaignent plus, quoi. Hein. Après tout, ils ont choisi d'être intensifs, il faut qu'ils assument leur intensification de leur système. Hein. Après... ils ont envie.
Fermanville, foire de producteurs ou écomusée, nos villes proposent de plus en plus d'actions ponctuelles ou permanentes pour approcher le monde urbain du monde rural. Mais cela suffit-il?
Quelle place doit-on laisser dans notre développement à l'agriculture périurbaine? Quel rôle la campagne doit-elle jouer sur la ville et inversement? Mais aussi quel rôle les citoyens doivent-ils jouer dans tout cela?
Merci Michel d'avoir pris le temps de nous donner ton opinion sur toutes ces questions et de nous avoir expliqué la biodiversité de tes champs. Et bonne conversion, car nous ne l'avons pas précisé, mais Michel a entamé une conversion vers l'agriculture biologique.
Et si vous souhaitez plus d'informations sur les systèmes herbagers, sachez que les sources sont nombreuses. Un film très intéressant à ce sujet est notamment sorti récemment, son nom parle de lui-même, il s'agit du film Herbe.
J'ai toujours rêvé d'avoir un gros tracteur, avec la radio. Ah ouais, j'ai toujours rêvé. Tout petit. J'ai jamais eu, moi, tout petit, un tracteur en plastique avec des pédales. Et non, ça n'existait pas. Je veux. Mais vous le racontez à personne.
L'épisode que vous venez d'entendre a été entièrement brodé à la main et réalisé avec des techniques artisanales par Goulven Maréchal et Alex Illis.
Nous tenons à signaler qu'aucun paysan n'a été maltraité durant ce tournage.
Et si vous voulez en savoir plus sur notre projet, consulter des photos, des épisodes inédits et des bonus réalisés dans d'autres exploitations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.duverdanslesoreilles.fr.